Vous écoutez le Calicast, le premier podcast français sur Doctor Who.
Salut et bienvenue dans le Calicast épisode 108. Avec moi ce soir, on a Julien qui nous fait son grand retour.
Hello.
Ça va mon Juju?
Ça va Thomas.
Ouais. Dusty Archiviste. Dusty.
Hello.
Et Ewen.
Bonjour.
Coquille 3, personne ne connaît. Quel surnom on peut donner, Ewen?
Ouais, on
appelle Wenou.
Wenou?
Ouais.
Je vais taper Ewen. Alors, ce soir, nous allons parler d'un documentaire. On va essayer de vous faire découvrir un documentaire qui était sorti pour les 30 ans de Doctor Who, qui s'appelle 30 Years in the TARDIS et qui est ressorti après sur More Than 30 Years in the TARDIS avec des scènes en bonus et qui était, voilà, lorsqu'il a été édité. Et puis, il est ressorti récemment en DVD dans un coffret qui s'appelle The Legacy Collection avec Shada. Donc justement, on va vous parler de ce documentaire. Vous allez vous dire quel est l'intérêt de parler d'un documentaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce documentaire qui est absolument génial. Mais avant de parler du documentaire, ça fait beaucoup de documentaires, le mot documentaire en très peu de temps, c'est l'heure des news.
Les news.
Les news. Alors, qui s'occupe des news ce soir? Eh bien, c'est Julien qui a décidé de s'occuper des news. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news, Julien?
Eh bien, effectivement, nous n'en avons pas beaucoup, mais beaucoup de choses se sont déroulées ces deux dernières semaines.
Eh oui, mais racontez-moi donc, Thierry, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines?
Alors, Jean-Michel, pour tout vous raconter, bah, déjà, dimanche dernier, pendant que vous écoutiez le précédent Calicast, Nous avions la chance de voir que Doctor Who a remporté, et ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire, que Doctor Who a remporté un BAFTA Awards.
Mais...
un BAFTA...
Oui.
Donc pour The Day of the Doctor, donc c'est le prix Radio Times Audience Award.
Alors le BAFTA, ceux qui ne savent pas ce que c'est l'équivalent des Oscars aux États-Unis, des Césars en France... et des
oui, voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que le BAFTA regroupe à la fois le cinéma et à la fois la télévision. Nous, en France, on a les Césars d'un côté pour le cinéma et on avait avant les Sept d'Or et maintenant les Globes de Cristal pour la télévision. Donc, en ce qui concerne donc Doctor Who, le prix, voilà, oui, et les Hot d'Or, bien évidemment, ce très grand prix que j'aime astiquer tous les matins. Donc, où en étais-je? Oui, donc le prix du public, le prix Radio Times Audience Award, a été remporté par Doctor Who pour The Day of the Doctor, face à une concurrence assez rude. Disons qu'en phase 2, il y avait Breaking Bad, Broadchurch, et j'en passe, et des meilleurs.
Ce qui veut dire quand même que vous avez voté, parce que la news avait été faite, et en France, vous avez eu la possibilité de voter également, parce que c'est dans le monde entier. Et voilà, donc finalement, grâce à vous, Doctor Who a gagné.
Voilà.
Sauf donc, sauf si vous avez voté pour Broadchurch parce qu'il y a David Tennant.
J'ai voté pour Broadchurch parce que c'est mieux.
Voilà.
C'est
après,
pas
chacun son opinion.
Chacun son avis, c'est ça. Allez, tais-toi. Vas-y, Julien.
C'est ce dernier temps.
Oui. Et alors? Allez,
si on devait parler de Broadchurch très rapidement, donc comme vous le savez, il y a le premier trailer de Gracepoint qui est sorti. Hein,
ah oui, mais
et comme ça, vous pouvez...
on s'en fout.
Mais je dis. D'accord. Je dis juste que c'est une copie conforme dans Broadchurch.
Mais évidemment que c'est une copie conforme. D'ailleurs, dans la saison 2, il y a Charlotte Rampling de Broadchurch et c'est l'ex-femme de Jean-Michel Jarre. Donc croyez-moi, vous allez en entendre parler. Quoi d'autre comme news?
Et l'autre news, donc comme vous le savez, en ce moment même, et je pense que à l'heure où vous écouterez ce Calicast, ce sera terminé, en ce moment même se déroule le 67e Festival de Cannes, le Festival du cinéma international. Et Ryan Gosling était donc présent pour présenter son tout premier film en tant que réalisateur, qui s'appelait avant How to Catch a Monster et qui a été rebaptisé Lost River. Et donc, sur la croisette, vous pouviez voir Matt Smith qui était présent pour présenter donc le film en compagnie de toute l'équipe technique. Voilà. Tout ça pour dire que la première bande-annonce du film a été dévoilée.
Oui, Oui, on s'en moque un peu. Le plus intéressant, c'est qu'il est passé au Grand Journal et qu'au Grand Journal, Antoine de Caunes a parlé de la série parce que Matt Smith a été « Oh, vous avez été le Docteur Who !» Immonde. Et donc justement, on a pu entendre voilà Matt Smith qui a comparé la série Doctor Who et plus les séries télé en général à il a comparé Doctor Who donc à sa petite copine. Voilà.
Vous allez voir,
c'est très intéressant, c'est bien formulé, très belle métaphore.
Voilà. Non, mais ce qui prouve encore une fois que Matt Smith regrette infiniment son choix d'être de cette coupée de Doctor Who. Parce que bon voilà. Non, oui, donc si vous voulez voir les beaux muscles de Matt Smith, regardez donc cette bande-annonce qui est sortie.
Les quoi de Matt Smith ?
Les beaux muscles.
Les muscles, les beaux muscles.
Il est musclé comme un flan, Bruno.
Oui, seulement il dit regardez mes beaux muscles. Pendant toute la bande-annonce, il dit c'est les seules phrases de la bande-annonce, il dit regardez mes muscles. Donc voilà.
Et ben moi je l'ai toujours pas vu.
De toute façon, tu rates pas grand-chose. Je voudrais rajouter une news moi pour ma part. C'est par rapport au fait que j'aide Davy Mourier sur la chaîne No Life pour ses 100% à la présentation de certains numéros, très peu, il y en aura 8 en tout. 2 ont déjà été diffusés et en gros on parle de tous les docteurs classiques. Un épisode est égal à un docteur classique. Pour l'instant, le premier et le second docteur ont été diffusés. On vous voyait très timide. Voilà. Et là, à partir du troisième docteur, ça va mieux. Vous allez voir que je suis moins timide. Donc voilà, il y aura 8 en tout. C'est diffusé sur No Life. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à Noco, qui est le service d'abonnement de No Life Online, enfin de No Life, etc. pour les revoir en replay. Ou sinon, n'hésitez pas à les regarder lors de leur diffusion. C'est plutôt intéressant et No Life a déjà parlé plusieurs fois de Doctor Who. Si vous avez un abonnement ou celui à 5€, vous pouvez voir l'ensemble de No Life depuis sa création, voilà, et voir des émissions qu'ils ont fait. Ils ont notamment parlé du jeu de rôle Doctor Who, etc., de plusieurs aspects de la série. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous conseille de vous abonner. Donc voilà. Sinon, Geekopolis, on en a parlé ? Non, je ne crois pas.
Ben, c'est moi qui ai fait les news.
Ah oui, bon. C'est vrai.
Donc, pour info, déjà, la news que vient de dire Thomas était sponsorisée par Pooh Chains Entertainment.
Benjamin Martin, Geekopolis, il a dit que je faisais. Oh, voilà, il fait encore sa promo et tout.
Oui, tu fais ta promo. Bon, peu importe. Dans tous les cas, samedi et dimanche dernier, c'est-à-dire le 17 et 18, avait lieu à Paris, Porte de Versailles, la deuxième édition du Salon Geekopolis, et bien entendu, Gaelic France y était, avait un très joli petit stand, et bien évidemment, je n'y étais pas, mais de toute façon, Thomas, Ewen et Dusty y étaient, et vont vous expliquer donc tout ce qui s'y est passé, les conférences et tout le tralala. Donc comment ça s'est passé, les amis ?
Ewen, tu peux commencer à en parler un petit peu, toi, ton point de vue ?
Je conseille que tu commences parce que tu étais là le samedi et moi le dimanche, donc ça serait plus logique.
Ok, ouais, donc je vais parler du samedi. Alors, le samedi, ça a été un programme assez chargé, mouvementé. Bon, déjà, on a installé le stand la veille, on a pu découvrir en avant-première le stand du VDF, etc., ce genre de stand, et surtout découvrir, parce qu'ils ne nous l'avaient pas annoncé, ces petits saligots, qu'il y avait un TARDIS à l'entrée de la partie de notre village, Métropolis. Donc voilà, il y a un TARDIS qui était posté juste là, voilà, qui nous accueillait en gros dans les lieux, puis nous on a installé nos stands, etc. Mais là, ça c'était le vendredi, nous c'était notre petite découverte, on a pu découvrir le stand vide, et vous croyez-moi, il y avait des choses très intéressantes, qu'on a pu profiter de choses qu'on ne pouvait pas profiter le week-end. Le samedi, une journée très chargée, on avait deux conférences, j'en ai fait une avec Jonathan et une avec Jonathan et Adria. La première, c'était les origines de Doctor Who. Au lieu de raconter l'histoire de Doctor Who comme on le fait à chaque fois qu'il y a une conférence, on va raconter comment la série a été créée, de quelle idée c'est venu, de qui l'ont créé. En gros, c'est un peu un Adventure in Space and Time en conférence, sauf que des fois, on allait plus dans les détails et on a essayé de dire des choses qui n'ont pas été dites dans le documentaire et de recentrer des choses qui ne sont pas bien expliquées dans le documentaire. Malheureusement, il ne fait qu'une heure et demie, mais ce docu-fiction reste absolument génial. Donc c'était la seconde, c'était Doctor Who et la France. On a parlé de la diffusion de Doctor Who et les références de Doctor Who à la France. On a parlé donc évidemment, comme vous en doutez, de City of Death. Donc on avait ces deux conférences, on avait un stand qui est resté les deux jours pour le coup, et voilà, c'est une petite chose, on a beaucoup de rencontres avec les Whovian, beaucoup de monde sont passés sur le stand. Je tiens à remercier tout particulièrement, Benjamin Martin qui nous a, alors qu'il ne fait même pas partie du staff, nous a aidé gentiment sur le stand, parce que c'est un ami, c'est quelqu'un qui vient à tous les événements, etc. Et il s'est proposé, et du coup on n'allait pas lui dire non, vu que c'est un petit peu le papa de la communauté Whovian en France, enfin, en tout cas à Paris, pour beaucoup de personnes parce qu'il héberge, etc. C'est vraiment quelqu'un que je tenais vraiment à remercier. Je tiens à remercier également tous les Whovian qui sont passés sur le stand, qui sont venus aux conférences, qui étaient bourrés. Les salles étaient remplies, hein. Les gens n'étaient pas bourrés, hein. Il n'y avait pas d'alcool, tout ça. Je tiens à m'excuser auprès des gens qui n'ont pas pu rentrer dans les salles de conférences, qui étaient vraiment trop petites. Déjà la première 70 places, la deuxième 40, imaginez un petit peu. La première salle, il y avait même des gens debout à la seconde. Qu'ils ont vu le monde que ça y avait à la première, ben ils pouvaient qu'avoir des gens assis, ce qui était un peu problématique, mais voilà. Et les gens qui étaient à la conférence ont pu découvrir que je savais pas utiliser Windows 8 et j'ai pu prouver à quel point c'était de la merde. Ewan, tu peux parler du deuxième jour.
Alors d'abord, juste, il faut savoir que Geekopolis c'était très 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 bien, mais ils avaient c'était des nouveaux locaux, hein, donc puisque les locaux de l'année dernière, il y a eu des histoires qui ont fait qu'ils ont pas pu les revoir. Et du coup, je pense qu'ils s'y sont pas pris assez tôt, parce que c'était très 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 mal indiqué, question salle, et qu'on a dû expliquer à approximativement 150 personnes comment aller à la salle, et qu'au bout de la 130e fois, ça commence à saouler un peu. Donc, s'il y a des gens de Geekopolis qui nous écoutent, l'année prochaine, mettez plus de panneaux.
Non, alors, moi, par rapport à Geekopolis, l'organisation à la base, la façon dont ils s'organisaient avant, et... pas génial, enfin c'est pas mal, c'est convention normale, il y a des défauts, etc. Par contre, le staff, et ça on peut pas l'enlever, le staff sur place, eux, sont des gens vraiment à fond dans leur travail, et du coup le staff rattrapait toutes les bourdes qui avaient été faites avant. Sachez qu'on a, nous en tant que exposants et personnes qui faisaient les conférences, on a été très bien accueillis pour toutes les conférences, et sachez que même du point de vue visiteur, il y a beaucoup de visiteurs qui étaient évidemment satisfaits du service. Donc voilà, sachez que même s'il y avait des défauts avant pour l'organisation, etc., sur le moment, tout le monde s'est rattrapé, ça fait de cette convention une très bonne convention. J'avais vraiment peur d'être déçu par Geekopolis, je ne l'ai pas été. Voilà.
Et Dusty,
du coup, Ewan n'a pas parlé de dimanche.
Oui, bah, je vais le faire si vous voulez.
Donc, alors, Thomas, encore monopolise la parole.
Le dimanche, il y avait Ben Aronovitch qui est. Vous savez pas qui c'est, hein. Alors, mais qui c'est? Alors, Ben Aronovitch, c'est un tiers de Dieu, c'est-à-dire que c'est un des trois scénaristes ayant aidé au Cartman Master Plan, qui est la suite de la série classique qui s'est arrêtée, mais je vais pas vous expliquer ça, vous irez chercher sur Google. Et sinon, c'est le scénariste de deux épisodes de Seven, Remembrance of the Daleks et Battlefield.
Surtout
Remembrance of the Daleks, qui est
son plus beau travail.
Oui, probablement.
Et la novélisation, c'est lui aussi.
Et la novélisation, elle est encore mieux. Enfin, elle est encore mieux. Elle ajoute plein de trucs et c'est bien. Et j'ai totalement oublié de l'enlever, et donc j'ai la rage alors que je l'ai. Et donc Ben Aronovitch, il était invité par Rêves Écrits, donc qui est une émission de No Life sur lequel passe Thomas. Tout est connecté.
La meilleure. La meilleure émission de la chaîne.
Chut. Et donc, on est allé leur parler, très sympa. Oui. Ben Aronovitch, il était très très accessible et ça fait plaisir après d'avoir subi des conventions comme Comic Con ou Paris Manga. C'est pas mieux. Question invité, Ben Aronovitch était hyper accessible.
Comic Con est quand même mieux que Paris Manga.
Ça se discute, question dédicace. Les deux systèmes sont mauvais, mais je pense pas qu'il y en ait un qui rattrape l'autre, franchement.
Geekopolis, les dédicaces sont gratuites, évidemment.
Oui, donc Geekopolis, c'est gratuit, c'est libre d'accès, c'était hyper facile, on pouvait lui parler, on pouvait lui prendre des photos, hein, n'est-ce pas, Paris Manga.
Et pour les auteurs de bouquins, vous pouvez venir avec une brouette de livres, l'auteur, il signera la brouette. Hein.
Ouais. Par contre, les invités sont quand même, pour le coup, moins prestigieux. Pour vous et oui, pour oui. Des gens comme les fans hardcore, évidemment, ils le sont. Quelqu'un comme Ben Aronovitch qui a écrit l'une des meilleures histoires de toute la série classique, ouais. Évidemment, mais voilà quoi. Ben Aronovitch, c'est pas Margatis.
Ouais, mais Ben Aronovitch, il a dû demander qu'on lui paye le billet de l'avion, l'hôtel et un truc à grignoter. C'est pas pareil avec un acteur quoi. Mm-hmm. Qui a probablement demandé un bras et un rein pour se déplacer.
C'est la meilleure, ouais.
Bon,
Donc voilà.
bref. Et d'ailleurs, il faut savoir que sur le stand de No Life, ils vendaient une compilation de nouvelles en hommage à Terry Pratchett, dans laquelle a écrit le membre du staff de la membre du staff de Gallifrance, Marie de Vigne, qui tient le site dont nous n'avons absolument aucune affiliation, Doctor Who Classic FR. Et donc, c'était très amusant parce qu'ils me l'ont offert.
Docteur
C'était
ou
une
classique
anecdote du
haut
jour.
et fort, voilà.
C'était une drôle de
Voilà,
coïncidence
Doctor
parce
Classique
que
au
Yoann était
FR,
arrivé
c'est
sur
très
le
bien.
stand avec ce bouquin-là et il connaissait pas et le truc avait marqué Marie de Vigne.
Donc c'était
Donc
marrant. Et donc alors, donc en gros le seul gros événement pour Doctor Who du dimanche, à part notre stand où on a continué à faire la même chose, même si on avait remis des nouveaux trucs et qu'on avait enfin accroché le tableau qu'une fan nous a donné à Lyon,
ouais, qui est magnifique.
qui est vraiment magnifique et que j'ai chez moi d'ailleurs maintenant, et il faut
Il va
qu'on
revenir
cadre.
chez moi.
Ouais.
Ah, t'as déjà une boule Minister of Chance, quoi.
Et oh, c'est
Ouais,
moi les
ah oui.
cadeaux.
Oui, non, en fait, je vais le garder, hein.
Non,
Oui,
c'est moi
donc,
les cadeaux.
je disais. Donc, il y a eu une conférence avec Ben Aronovitch, mais il faut savoir qu'ils étaient vraiment pas préparés, dans le sens où ils ont appris que très tard, je sais plus, c'est Dusty qui leur avait demandé très tard qu'il allait vraiment venir, c'est ça?
Ouais, enfin non, je crois qu'ils ont été invités par Geekopolis, genre un mois avant. Eux, ils avaient un plan avec Aronovitch, parce qu'Aronovitch écrit une nouvelle série qui s'appelle L'Apprenti Sorcier, qui a rien à voir avec Doctor Who. Il fait un moment qu'il est plus dans Doctor Who, Aronovitch. Et donc, Rêves Écrits, ils ont une invitation un peu à l'arrache. Et du coup, s'ils l'avaient su, ils nous auraient prévenus pour qu'ils prennent des spécialistes Doctor Who pour l'interviewer, parce que là, l'interview, c'était sympa, mais
Oui donc,
c'était peut-être pas aussi
parlons de
approfondi,
la
quoi.
conférence. Alors la conférence c'était demain.
Rapidement, s'il te plaît, rapidement, s'il
Ouais.
te plaît.
Donc la conférence en gros c'était quelque chose de très amusant. Le problème c'est que les deux présentateurs slash traducteurs, parce qu'ils faisaient un peu les deux et qu'il n'y en avait aucun qui avait un très très bon anglais, dans le sens où quand on comprend l'anglais ça se faisait mal quand même. Ils
Normal.
connaissaient vraiment rien à Doctor Who. Ils connaissaient vraiment 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 rien à Doctor Who et ils ont dit pas mal de bourdes, mais ça partait d'une très bonne intention et ça se
Non, ils
voyait.
connaissent pas vraiment rien.
Enfin,
Ils s'y connaissent quand
ils
même
s'y
pas mal
connaissent un
sur la
peu.
nouvelle série.
Ils s'y connaissent,
Ouais.
ouais,
Mais
même.
c'est pas des hardcore, quoi.
C'est pas des hardcore, et même dans le sens où ils étaient vraiment pas renseignés sur ce qu'a fait Ben Aronovitch, c'était sur une petite feuille, mais je comprends qu'ils aient pas eu le temps d'organiser, donc j'espère que si ça se refait, quelque chose comme ça, ils auront plus de temps. Parce que ça partait vraiment d'une bonne intention, et puis, mis à part les questions du public, du genre, ça va être comment la saison 8 de Doctor
Il y avait des questions
Who?
trop bêtes, quoi.
Mis
Oh
à
là
part ça,
là.
c'était très sympa, et juste une information qu'il a donnée et qui fait deux informations juste. Ils ont écrit le Cartman Master Plan sous substance slash alcool.
Ouais, ils avaient beaucoup bu,
Voilà,
juste.
c'est sa
Ah,
version.
bravo! Ouais.
Ta, ta, ta,
N'empêche
ta.
que l'idée est géniale.
Oui, donc,
Ouais.
la deuxième information, c'est qu'on sait pas trop ce qui s'est passé, mais quand on a posé une question par rapport à Big Finish, parce qu'il a écrit une ou deux histoires de Big Finish, malheureusement, il a vraiment vraiment l'air de pas vouloir revenir sur Big Finish. Je sais pas ce
Ouais,
qui s'est passé, mais
ça sentait un peu l'embrouille, hein, je sais
ça
pas.
sentait un peu
Ouais.
l'embrouille. Il a sorti une réponse pas claire et que moi j'ai pas trop compris. Et
Fameux.
après, j'ai pas trop compris le sens. Et le problème après, c'est que elle a essayé de traduire et elle a traduit un autre truc. Donc c'est pas clair, mais en gros, on le reverra pas chez Big Finish, hein.
Ouais,
Ok.
putain, moi, peut-être que ça
Eh
va
bien,
changer.
c'est dommage.
Oh non. Bon, bah voilà. Mais on va passer du sujet de la
Juste
semaine quand même. Ah oui, vas-y.
deux secondes. Je voulais dire un grand changement du public qu'on a reçu à Geekopolis cette année par rapport à l'année dernière. 99, bon même 100% des fans qui sont venus nous voir sur le stand connaissaient les classiques, avaient au moins vu un épisode ou un morceau d'épisode, et ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière, ce qui devrait relever à peu près de 20% l'année dernière. Cette année aussi, j'avais au moins une personne sur deux qui avait entendu parler des audios, pas forcément écouté ou téléchargé, mais qui savait ce qu'était Big Finish, qui en avait écouté. Il y en a certains qui étaient abonnés, et ça aussi, c'est une grande nouveauté, quoi. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus en communication, et je trouve ça vachement bien qu'il y ait plein plein de gens qui se soient lancés dans la série classique, que se soient lancés dans des audios. Certains connaissaient les romans aussi, donc c'était vachement bien. Merci à
Bravo.
tous d'être venus d'ailleurs, c'était vraiment très très cool.
Ouais, bravo aux fans. On va passer au sujet de la semaine. On va tout de suite parler de An Adventure. Pourquoi je dis ça, moi? Vous me faites dire des conneries. More than 30 years in the TARDIS.
Le sujet de la semaine.
le sujet de la semaine. On va parler de 30 Years in the TARDIS. Mais bon, enfin, on va plus parler de la seconde version, donc More Than 30 Years in the TARDIS, qui est essentiellement la même chose avec des scènes en plus, hein, la pub. Parce qu'en fait, c'est un documentaire en trois parties, et en format VHS puis DVD, il est en une seule partie, et au lieu d'avoir les publicités de la BBC, bah, ils ont mis des publicités qui concernaient Doctor Who. Des pubs sur de la glace, hein, New Shack Sky Ray, et sur un ordinateur qui avait 7 protocoles, c'est génial, Prime Computer. On viendra dessus, donc 5 protocoles, me dit mon frère. Ah, que 5 ? Oh là là, il est nul cet ordinateur. Et Wen, raconte-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Alors, 30 Years in the TARDIS, aka More Than 30 Years in the TARDIS, c'est un documentaire qui a été réalisé.
Ouais, vas-y.
Oui, c'est vrai, mais je répète parce que pourquoi pas. Hein. C'est un documentaire dont je viens de perdre l'onglet ouvert dans mon navigateur.
Bon, c'est un documentaire qui a été réalisé par Kevin Davis.
Et c'était pour les 30 ans de la série.
Exactement.
Et non pas Kevin Desboulons. Ok, je sors.
Bravo. Oui, donc, qui a été réalisé pour les 30 ans de la série, alors que la série s'était déjà arrêtée, malheureusement. Et donc, c'était un documentaire très très complet, mais le problème c'est qu'il a été beaucoup coupé pour sa diffusion télé en 93, et que c'est avec la sortie VHS en 94 et la sortie DVD avec Shada en 2013, hein. 2013, oui, donc l'année dernière, c'est le coffret qu'on a nous. On va parler de la deuxième version parce qu'elle est beaucoup plus complète et c'est ce qu'on considère, je pense, tout le monde ici présent,
moi en tout cas,
via l'internet, comme le meilleur documentaire sur la série. Enfin, moi, c'est ce que je pense, dans le sens où ça va pas trop loin dans les explications ennuyantes et à la fois il y a de la narration.
On est dans le documentaire interactif. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir toute la partie où on va y avoir des interviews, des choses comme ça, et puis on aura toute une partie narrative qui permettra aux enfants à la fois, enfin je pense au jeune public, de pouvoir s'y retrouver et justement d'apprécier ce documentaire davantage, donc que ce soit un documentaire pour la famille, en fait, comme est la série à la base. Mmh. Voilà.
Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que cet aspect-là, en fait, ils ont mélangé deux choses. Ils ont mélangé les séquences documentaires, enfin même trois choses. Les publicités, comme je vous ai dit, parce que ils ont fait comme si c'était trois histoires de Doctor Who, trois petites parties, et ça a raconté trois aspects différents de la série, trois gros aspects. Hein. Les sujets sont larges à chaque fois. Hein. Et c'est vraiment bien décrit, ça va dans l'anecdotique, etc. Mais ça mélange vraiment scènes documentaires avec des explications, des espèces scènes de narration avec intervention des acteurs qui ont joué dans la série, etc., qui revivent un petit peu des scènes, enfin, ils revivent des choses déjà vécues. Et voilà, donc les publicités pour Doctor Who, donc tout ça se mélange et ça forme ce documentaire qui est absolument passionnant, qui en gros t'explique tout ce qui est Doctor Who, tout ce qui était déjà les racines de Doctor Who, vu que ça parle de la série classique des 30 ans avant que le téléfilm de 96 se fasse. Et donc on ne connaissait pas du tout l'avenir de la série, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir là où on en était. Et même à la fin, ils parlent des hypothèses de la suite. Et vous allez voir que finalement, ils étaient un peu loin du compte. Pas tellement, parce que ils parlaient déjà de remake américain, de choses américaines. Vous allez voir de petits détails. En tout cas, c'est très intéressant, je vous le conseille. Votre avis général dessus, Julien ? Non, on va commencer par-dessus. On commence toujours par-dessus. Allez.
Très bien. C'est bien fichu, enfin, dans l'ordonnancement du truc, tout en restant très drôle, parce que déjà, il y a vraiment tous les acteurs de la série. La première partie, c'est vraiment qu'est-ce que Doctor Who a apporté à la fois à la Grande-Bretagne puis aux fans. Une deuxième partie plutôt dédiée aux monstres. Et une troisième sur la fin de la série et les trucs marrants qu'il y avait dedans aussi. C'est bien organisé, c'est plein de fourfoils aussi. Donc ça, c'est très drôle. Et puis l'intégration des publicités qui passe bien, en fait.
Entre les parties, parce que c'est fait comme si l'histoire était terminée. Il y a une espèce de générique de fin version courte, et là, lancement des pubs, puis ça reprend. Donc c'est vraiment bien foutu.
Ouais, très très, très bon documentaire.
Julien, ton opinion dessus ?
Alors, moi je trouve que c'est vraiment l'outil qui sert à décrire la série classique le mieux possible, en fait. Je pense même qu'avant... je pense pas qu'on puisse découvrir la série avec, mais c'est vrai que ça pourrait être un plus pour la découvrir, en fait. Bah, je me dis que d'un côté, on risque de se spoiler en le regardant, et à la fois, si on a envie de découvrir Doctor Who et de savoir ce que c'était avant.
Mais
avant la nouvelle série.
Julien, je trouve que ça spoile pas tellement au stade où on est quand même en 2014. Les informations qui sont données sont pas tellement spoilers et des choses que
tu trouves. Imaginons, remarque. Donc techniquement, pour en revenir à ce que je dis, je pense que
c'est... Ça spoil le moins que certains de nos Gallicasts.
Voilà. Non, mais c'est vraiment, si on veut découvrir la série, on peut commencer par ça, pour voir si Doctor Who, la série classique vous intéresse. Je pense que c'est vraiment l'outil. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que d'un côté, on a ce point de vue très enfantin, parce qu'on suit le chemin d'un petit garçon pendant tout le documentaire.
Ouais.
On a ce petit point de vue enfantin, on a la narration de Nicolas Courtenay qui est
excellente.
Qui est excellente parce qu'il a une voix juste magnifique, cet homme. Il avait, malheureusement,
ouais.
Son âme, comme on dit. C'est vraiment, je trouve que ça casse tous les genres du documentaire. On reste dans l'esprit Doctor Who tout en étant dans un documentaire. C'est vraiment une des meilleures.
Une des meilleures initiatives, peut-être.
Ce que je veux dire, je pense que c'est un des meilleurs trucs qui a été fait pour un anniversaire de Doctor Who, en fait.
Ah oui, parce que surtout qu'on sait que la même année, il y a eu Dimension in Time, hein, qui est le croisement entre.
On n'en parle pas.
Vous savez quoi,
chercher ça sur Dailymotion et pleurer.
Oui,
ce qui ressort de l'ambiance de ce reportage, c'est le côté très familial, enfin pas familial au sens de destinée de la série, c'est la façon dont Doctor Who, les gens qui ont bossé dedans, tout le monde dit c'est une famille. Et on sent qu'en fait, ils ont trouvé ça fun de faire un reportage dans ce truc-là, quoi. C'est-à-dire d'intégrer les fans à leur famille d'acteurs, de producteurs, de fabricants de décors et de scénaristes. Et du coup, ça passe vraiment super bien, quoi.
Oui.
La complicité, on la voit, Caroline Ford et Verity Lambert, Fraser Hine avec l'actrice qui joue
Victoria Waterfield.
Victoria, exactement, etc., etc. Il y a vraiment à chaque fois une entente, une complicité, et c'est vraiment ce qui. Et de voir toute cette joie et cette bonne humeur dans ce documentaire, ça donne encore plus envie de regarder la série.
Ça me rappelle le bouquin Chicks Dig Time Lords, édité chez Mad Norwegian Press, qui parle, ce sont des femmes qui racontent leur vie dans le fandom de Doctor Who. Et il y a un peu toute cette complicité, tout cet amour pour une série qui en fait est complètement cheap et improbable. Et c'est ça en fait, ce reportage. Effectivement, tu disais, ça casse les codes du documentaire. C'est pas chiant comme un documentaire, c'est vraiment très fun.
On dit pas non plus que tous les documentaires sont chiants. Il y a énormément de documentaires, notamment de la BBC, qui sont vraiment, qui sont.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un documentaire interactif. C'est que tu vas le regarder. si j'ai déjà dit, mais je préfère leur dire, mais c'est.
Documentaire interactif.
C'est un documentaire interactif.
Documentaire interactif.
Oui, bah exactement, Ewen, je suis d'accord.
Sa particularité, c'est qu'il est interactif.
Exactement, parce qu'on est un petit peu à l'intérieur, comme si on était aux commandes du... non, c'est pas ça.
Troll.
Michel, je t'embrasse. On t'embrasse tout de suite. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est vraiment interactif, et que non, mais... Voilà,
On a compris. Voilà.
Très interactif.
Vous avez l'impression de regarder vraiment la série. En plus de regarder ce documentaire, c'est très interactif. Voilà, on résume. C'est la dernière fois que ce mot sera prononcé dans l'émission. Peut-être d'autres choses. Moi, j'aimerais parler aussi de l'aspect de réalisation, vraiment la façon dont ça a été fait. Non, mais sans dire le mot, s'il te plaît. Hostie, toi, t'en as pensé quoi de la spiralisation, la façon dont ça a été monté, etc.
J'ai pas tellement eu le temps de faire beaucoup d'analyses dessus. Je sais pas quoi. Je trouve ça bien fait parce que c'est. Il y a une progression linéaire, enfin, au sens chronologique. Ils partent vraiment des débuts de la série et ça finit avec. Dans le dernier épisode, c'est plutôt centré sur McCoy. Mais en même temps, ils intègrent des éléments qui sont à la fois récurrents un peu partout dans la série, les monstres qui reviennent tout le temps, les défauts aussi de la série qui reviennent tout le temps. Donc, puis cette intégration des pubs pour faire un peu coupure entre des. Puisque c'est en plusieurs épisodes, je pense que ça a été voulu d'être fait comme s'il y avait une coupure publicitaire.
Oui,
en plus, c'est les publicités de Prime. Bon, il y a celle des glaces aussi, là, des roquettes.
Ouais, New Shack Skyray, Only 6 voilà. Months.
Celles des Prime sont très bien parce qu'en plus c'est l'époque où Tom Baker et Lala Ward étaient effectivement mariés et elles sont vraiment très très mignonnes.
Et du coup, bah, la deuxième a même donné naissance à nombre de fanfictions. Hein.
Et oui.
Voilà. Regardez. Ah,
je
regardez.
Tiens à préciser que sans cette publicité, il y aurait eu les mêmes fanfictions. Hein.
Oui. Oui.
Ça aurait juste pris un peu plus de temps.
Oui. D'ailleurs, maintenant nous savons qu'ils ont des Prime Computers sur Gallifrey. Hein.
Exactement.
La constellation de Casterbarus, ça aussi la ligne qui sert à rien parce que étant donné que Romana est aussi une Time Lord.
Faire Paul, là on a les droits.
Se sent. Il a pas tort. Oui, Julie, oui. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, non. Ce que j'aime bien, c'est vraiment les petits détails, c'est qu'elle. Ils vont te raconter toute l'histoire de la série et puis aussi ils vont te parler de petits détails genre
l'anecdote.
Les petites anecdotes.
L'accident de Sophie.
Voilà, l'accident
de Sophie. Vous savez la vie.
Exactement.
Regardez ça, c'est absolument génial. C'est bourré d'anecdotes, de trucs très intéressants. Vous allez voir certains costumes en noir et blanc en couleur et vous risquez d'être choqués. Il y a même énormément d'interventions de la part de John Pertwee, qui est beaucoup intervenu. Oui. J'ai trouvé ça absolument génial. En plus, c'est mon docteur préféré, comme ça, c'est génial. Est-ce que vous trouvez quand même que certains docteurs, on n'en a pas beaucoup parlé. Je pense au cinquième ou au sixième docteur.
Ah bah Davison déjà aussi, il a pas 20 secondes.
Ah mais Davison il a été expédié. C'est passé ouais. De alors il s'est régénéré, après il y a eu une histoire, après on lui a mis des effets spéciaux et il y a Colin Baker qui arrivait.
Puis il est même pas présent en tant qu'acteur pour faire l'interview quoi. La plupart des paroles c'est Colin Baker, Sylvester McCoy, John Pertwee, Carol Ann Ford.
Même Troughton qui était mort à l'époque a plus parlé. Hein.
Et voilà aussi.
Et Jamie.
Tout ce qu'on disait sur Colin Baker quand on parlait de Paris Manga tout ça. Regardez le documentaire et vous verrez que Colin Baker, bah effectivement c'est un gros nounours parce que. Ah voilà quoi, tel qu'on le voit là-dedans, il est juste trop mignon.
Il est comme ça, il est réellement comme ça avec Nicolas Bryan en plus. Ils ont toujours été très très proches.
Ouais.
Donc c'est une pure merveille de les voir, les acteurs en dehors de leur rôle, et puis de voir qu'au final, bah ils sont pas si différents.
Sauf et pour tout ce que vous aviez pu imaginer.
D'ailleurs, voilà. J'aime beaucoup Nicolas Bryan qui fait fermer la bouche à tous ceux qui disent quand on lui pose la question, ça fait comment d'apparaître en bikini dans Doctor
Ah
Who
oui.
Elle dit,
c'est magnifique.
Elle dit en même temps, vous êtes bête, je vais plonger dans l'eau, je vais pas plonger tout habillé. Voilà.
J'ai trouvé qu'une fois quand je regardais enfin, le montage final, elle a dit oui, il y avait quand même des plans un peu ouais. Chelous sur mon anatomie, mais je pense que les gens se sont pas mal régalés.
Bah voilà, donc j'avais trouvé ça drôle. Donc ce documentaire est drôle, intéressant, interactif, faut pas l'oublier.
Et oui, surtout interactif.
Ouais.
Et oui, c'est un, je trouve que c'est pas mal un résumé de plusieurs reportages que vous allez trouver dans différents DVD. Il y a plein de scènes, enfin, d'anecdotes qu'on connaît parce que il y a un reportage dans chaque DVD de la série classique, donc c'est un peu regroupé là. Et puis après, ce qu'il y a, mais ça post-générique aussi, il y a plein de scènes coupées. Pareil qu'on retrouvait aussi dans d'autres DVD et qui sont très 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 fun quoi. Donc à la limite si vous avez jamais acheté un DVD classique et du coup vous avez pas vu les reportages à moins de les avoir chopés sur YouTube, c'est vraiment une bonne introduction parce que vous allez peut-être découvrir des détails ou des scènes que vous aviez jamais vues et qui vous donneront envie justement de regarder des reportages complets là-dessus.
Est-ce que c'est aussi bien introduit que John Hurt? Non pardon.
Non bon.
C'est bien ça.
Bon, merci Julien pour cette intervention très utile. Je voudrais préciser que le DVD dans lequel il se trouve dans la réédition est très intéressant. Il y a d'autres documentaires. Il y en a un sur Verity Lambert, sur les femmes de Doctor Who, etc. Il y a une galerie d'images comme habituellement, etc. C'est très intéressant. Le DVD est vraiment très bon. En plus, le coffret est avec Shada, ou comme disent certaines personnes, Shada. Donc voilà. Donc c'est vraiment le coffret acheté, je crois, à Modern 30 Years in the TARDIS. C'est l'un des meilleurs coffrets de tous les temps.
Le coffret s'appelle The Legacy Collection.
D'ailleurs. The Legacy Collection, exactement. Le packaging en plus est plutôt sympathique. Peut-être pour on va peut-être finir. Je crois qu'on a
juste
un peu
moi, en gros, oui, pour moi, juste parce que j'ai pas beaucoup parlé. En gros, ça représente tellement l'esprit à la fois de la série. Et à la fois de ce qui se passe en dehors de la caméra, et c'est juste parfait. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils ont fait des séquences entre guillemets parodie, mais qui tombe pas dans la parodie, parce que comme ils disent, comme Douglas Adams dit magnifiquement bien dans le commentaire, c'est il faut réussir à concilier humour et drama, et ça fait beaucoup plus qu'un humour où tu mets des bruits de pète et puis ça fait rire les gens, quoi.
Oui. Oh oui, cette scène où il monte un extrait d'un show qui est complètement nul là, avec un
oui, avec un
et après ils mettent la scène de City of Death où il met il a pas, je ne suis sûr, il est pas aussi débile qu'il en a l'air, et le comte ou la comtesse répond personne n'a l'air aussi débile qu'il en a l'air.
C'est Glover qui répond ça.
Ouais, c'est génial. L'intervention de Douglas Adams, c'est intéressante en plus. Très intéressant.
Et ce qui est bien aussi, c'est que donc il y avait on avait parlé de d'Adventure in Space and Time, et évidemment donc toutes les anecdotes sont reprises dedans aussi.
Ouais, ouais. Et certaines vous allez voir qu'ils ont rajouté des détails. Enfin là, c'est plus complet pour le coup, hein.
Non, mais... bah là, c'est la réalité évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que il y a même les décors. Je crois que il y a la petite donc la petite fille de Hartnell qui parle dans la maison où elle allait chez son grand-père, non? C'est ça, c'est
bien. Oui, exactement, avec le Dalek qu'elle a eu en cadeau. Ouais.
Enfin, c'est oui. Celui de son.
Ouais. La robe d'Alec. Et il y a une présentatrice télé qui est dans le documentaire aussi. Je sais pas si c'est une présentatrice, la blonde, la celle qui est assise, qui compare tout à c'est très pervers, c'est très sexy. Elle dit beaucoup de mots. Elle compare beaucoup Doctor Who à ce genre de mots. Hein, sans doute.
L'américaine.
Voilà. En tout cas, très bon documentaire. Tu vas lui donner une note.
Mais juste moi, en fait. Ouais. Juste avant, ce que j'ai bien aimé dans le documentaire, c'est que j'ai un peu l'impression qu'ils ont pris les moyens de l'époque. C'est-à-dire des moyens plus élaborés quand même que la série classique, qu'ils ont pris le budget conséquent et qu'ils ont fait des séquences comiques à la fois pour faire rire les gens et pour que le documentaire soit divertissant, et à la fois pour dire quand même regardez ce qu'on peut faire maintenant, nous à cette époque là, regardez tout ce qu'on peut faire avec Doctor Who, regardez les effets spéciaux qu'on a, regardez les costumes qu'on a, ça serait pas bien de le faire revenir quand même un peu.
Surtout qu'ils ont même parlé des Daleks, des comics, ils parlent des comics, ce genre de choses.
Ah oui, il parle vraiment, c'est extraordinairement.
Il parle de tout, même des films de Peter Cushing.
Ouais, avec Roberta Tovey qui apparaît. Roberta Tovey, c'est la Suzanne, mais des films avec Peter Cushing. Voilà, donc
et
ça...
d'ailleurs, à la fin,
il
faut rappeler, juste avant le générique de fin, il faut rappeler que ça a été diffusé en 93. Mmh. Ok. C'est la première fois dans toute la série qu'on voit un plan de la caméra qui rentre dans le TARDIS de l'extérieur et qui se retrouve à l'intérieur sans coupure.
Ouais.
Et c'est dans ce documentaire là. Et ça sera plus utilisé jusqu'à The Snowman qui date de 2013.
Voilà.
Genre 10 ans plus tard.
Il va se passer 20 ans même.
20 ans, oui.
20 ans entre les deux.
Ta gueule.
Et évidemment, c'est un peu. Et c'est évidemment, on voit bien comment ils ont fait. Mais c'est tellement. C'était tellement plein d'idées. Oui, effectivement, oui. Oui, ouais, totalement. Donc bon, c'est 19 ans. Mais voilà. Et donc franchement, moi je voyais ça comme une démonstration de ce qu'ils pouvaient faire à l'époque, et c'est dommage que la série n'ait pas recommencé en Angleterre, mais à la fois on a eu Paul McGann grâce à ça, donc c'est pas si nul que ça. Mais le générique de fin, il est parfait, et enfin rien que les acteurs se soient prêtés au jeu à ce point d'une fiction dans le documentaire, dans la fiction dans le documentaire. Enfin, Doctor Who, c'est bien.
Docuception, quoi.
Docuception, voilà.
Et le générique de fin, ils ont repris une super
thriller.
Non, je parle de
une
la
chanson
musique
que vous avez peut-être pas entendue si vous connaissez pas bien la série classique.
Ce sera la musique du générique de fin.
Ah bah voilà, vous l'écouterez là. Elle est parfaite.
Voilà. Donc il est disponible en sous-titré, hein, en français, sur Internet. Voilà, donc superbe documentaire. Je vous le conseille. Peut-être donner une note, Dusty, si tu devais lui donner une note.
Bah 9,5. On peut même 10, parce qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup de documentaires, voire pas de documentaires à part An Adventure in Space and Time qui arrive à ce niveau-là. Allez, on va lui mettre 9,5 pour. On va garder 10 pour An Adventure.
Ok, Ewan.
Alors 9,5, pourquoi? Parce que la dernière image, c'est Tom Baker qui n'a pas voulu apparaître dans le documentaire, et donc ils ont utilisé des images d'archives, et je suis pas content qu'ils aient mis une image de lui à la fin, parce que c'est pas cool, les autres ils ont été plus sympas, voilà.
Oh, bah, juste avant c'était, comment ça s'appelle, McCoy qui manque de se faire embrasser par Nimrod.
Oui, ouais. Mais bon.
Julien?
Bah suivant le mouvement, moi je mettrais 9,5, parce que c'est pas assez long, on en redemande.
9,5 pour les mêmes raisons que Julien. Tu m'as niqué mon truc, salaud. Ouais, c'est pas assez. Ça rentre tellement dans les détails, c'est tellement pas ennuyeux qu'on se dit, tiens, ça peut durer une demi-heure de plus, on s'en rendrait pas compte. Voilà.
Mais voilà, on ferait un documentaire maintenant sur la nouvelle série comme ça, ça marcherait jamais. C'est exactement. Ah. C'est pas du tout. À mon avis, ça avec les problèmes de production. Comme ça, je pense pas que ça
marcherait sur la période RTD, mais c'est vrai qu'avec les problèmes de la période Moffat,
non, voilà. Je pense que ça peut marcher, je suis pas d'accord.
Tu peux pas faire un reportage comme ça tant que la série tourne et tant qu'il n'y a pas assez de recul dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas évidemment, une génération qui a été complètement marquée par la série,
exactement.
Non, mais donc le problème, c'est que là, il y a un peu moins d'équipe.
S'il te plaît, Ewen, laisse le mot de la fin à Dusty. Donc, je pense que c'est tout pour ce Gallicast, et puis que dire à part Vavoom.
Vavoum,
vavoum.
C'était le Gallicast. Vavoum. I cross the void beyond the mind, the empty space that circles time. I see where others stumble blind. Seek a truth they never find. Eternal wisdom is my guide. I am the Doctor. Through cosmic waste the TARDIS flies, to taste the secret source of life. A present science can't deny exists within, outside, behind the latitude of human minds. My voyage dissects the course of time. Who knows, you say, but are you right? Who searches deep to find the light that glows so darkly in the night? Toward that point, I guide my flight. As fingers move to end mankind, metallic teeth begin their grind. With sword of truth, I turn to fight the satanic powers of the night. Is your faith before your mind? Know me, am I the Doctor?
Retrouvez la semaine prochaine le Gallicast qui sera consacré à Jean-Michel Jarre, le plus grand musicien de tous les temps.
Non, c'est pas possible.
Quoi? C'est mort, non. Thomas.
De quoi?
Ah non, pas Jean-Michel Jarre, quoi.
Mais pourquoi?
Bah quoi, ça fait 3 semaines qu'on bosse déjà sur tout l'arc de Key to Time. J'ai même, te dis, le manteau à poil de Romana et puis je me suis fait des bouclettes comme Baker. Donc non, on fait Key to Time et on fait pas Jean-Michel Jarre, c'est qui c'est lui d'ailleurs?
Ouais, c'est mort, et moi, de toute façon, j'avais déjà les bouclettes.
Non, mais il y a 6 arcs.
Ouais, bah.
Tu commences par le premier.
Oui, voilà, comme tout le monde.
Comme tout le monde, oui, bon, ok. C'est quoi le premier arc? C'est.
Ribos Operation.
Ok.
Saison numéro 16, je crois. Arc numéro 98. T'as vu ça, c'est précis.
Ok. Bon, bah, ok.
Le Wikipédia a parlé.
Mais est-ce que, à l'avenir, on pourra quand même faire un Gallicast sur Jean-Michel Jarre?
Non.
Ouais, mais non. Sinon, je démissionne.
Moi aussi.
Ok. À la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça.